VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver encore en ce lundi 9 décembre 2019 dans le monde aujourd'hui. En direct de Washington, Nanit Talami
et Michel Joseph.
Les titres que nous allons développer ce matin.
En Guinée-Bissau, le président sortant soutient le candidat de l'opposition lors de la présidentielle.
Au Rwanda, lancement de la première campagne de vaccination contre l'épidémie d'Ebola.
En Algérie, lourde peine requise contre d'ex-dirigeants accusés de corruption.
4 roquettes font 6 blessés sur une base de l'aéroport de Bagdad.
Dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports.
Pour le moment, le journal.
Le second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau aura lieu le 29 décembre. Le président sortant, José Mario Vaz, soutiendra le candidat de l'opposition, Umaro Sissoko Embalo. Il affrontera le chef du parti historique, l'ex-premier ministre Domingos Chimeos Pereira. Jean-Roger Billon nous donne les détails.
Nous allons soutenir sans réserve Umaro Sissoko Embalo, a déclaré hier Eri Mané, un membre de l'entourage du président sortant, crédité de 12,41% des voix, confirmant un accord conclu samedi à Bissau en présence de messieurs Vaz et Embalo. Arrivé deuxième au premier tour avec 27,65% des voix, monsieur Embalo a déjà obtenu le ralliement des principaux ténors, comme l'opposant Nuno Gomes Nabiam, qui a réuni plus de 13% des voix. Un autre ex-premier ministre, Carlos Domingo Gomes, également récalé au premier tour avec plus de 2%, avait annoncé le 30 novembre son soutien à M. Embalo. De son côté, Domingos Simoes Pereira, chef du gouvernement en 2014-2015, va compter au second tour sur les soutiens de deux candidats malheureux au premier tour et chef de petit parti, Yaya Diallo et Idrissa Diallo. Porté par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, majoritaire, dont il a pris la tête en 2014, M. Pereira a recueilli 40,13% des voix. La campagne pour le second tour doit commencer le 13 décembre pour s'achever le 27.
En RDC, un survivant d'Ebola est retombé malade du virus pour la deuxième fois à Mabalako, province du Nord Kivu, dans l'Est, d'après les autorités sanitaires congolaises qui affirment qu'il n'était pas encore clair s'il s'agissait d'un cas de rechute ou de réinfection. Cliniquement, nous vérifierons s'il s'agit d'une réinfection pour savoir s'il s'agit du même virus ou si la personne a été infectée par une autre source, a déclaré Aouka Steve Mundeke, virologue à l'Institut national de recherche biomédicale. Nous avons eu des cas où le virus persiste dans les réservoirs immunitaires. Dans de rares cas, le virus peut à nouveau provoquer les symptômes, a déclaré de son côté Margaret Harit, porte-parole de l'OMS.
Le Rwanda a lancé hier dans l'ouest du pays, à la frontière avec la RDC, sa première campagne de vaccination contre l'épidémie d'Ebola. Des détails avec Eric Manirakiza.
Le gouvernement rwandais envisage de vacciner 200 000 personnes en un an dans les districts de Rubavu et de Rusizi, au nord et sud du lac Kivu, a déclaré hier la ministre de la Santé, Diane Gashumba. Le Rwanda utilise le vaccin expérimental qui avait été employé pour la première fois à la mi-novembre à Goma, en RDC, de l'autre côté de la frontière. Le groupe stratégique consultatif d'experts de l'OMS a conseillé tous les pays situés dans les zones à risque où Ebola a été signalé actif d'utiliser le vaccin Johnson & Johnson pour protéger ceux qui ont de fortes probabilités d'entrer en contact avec des gens vivant dans ces zones. C'est la première campagne de vaccination contre Ebola jamais lancée par les autorités rwandaises. Plus de 250 000 personnes ont déjà été vaccinées en RDC par un premier vaccin fabriqué par le groupe américain Merck Shape Endom. La région de Beni Butembo, se trouvant à 350 km au nord de Goma, est l'épicentre de l'épidémie en RDC, qui a fait plus de 2200 morts depuis août 2018.
En Algérie, le parquet a requis hier de lourdes peines d'emprisonnement contre d'anciens hauts dirigeants politiques. Selon les médias locaux, il s'agit de deux ex-premiers ministres et des hommes d'affaires accusés de corruption dans un procès sans précédent. Des détails avec Jean-Roger Billon.
Le procureur a réclamé 20 ans de prison ferme contre deux anciens premiers ministres de l'ex-président déchu, Abdelaziz Bouteflika, Ahmed Ouyaïa et Abdelmalek Sélal. Il a requis la même peine de 20 ans de prison par contumace à l'encontre d'Abdel Salam Bouchouareb, ancien ministre de l'Industrie et des Mines, en fuite à l'étranger. Les autres peines requises vont de 8 années d'emprisonnement jusqu'à 15 ans pour deux ex-ministres de l'Industrie, Majoub Beda et Youssef Youssfi. Le procureur a également réclamé la confiscation de tous les biens de tous les accusés et l'émission d'un mandat d'arrêt international contre M. Bouchouareb. Appelé samedi à la barre comme témoin, le frère et conseiller de l'ex-président algérien, Saïd Bouteflika, mis en cause par l'un des accusés, a refusé de répondre aux questions du juge. Les débats se déroulent en l'absence de nombreux avocats de la défense qui ont décidé de les boycotter, dénonçant une parodie de justice et un climat de règlement de comptes. C'est la première fois depuis l'indépendance en 1962 que sont jugés d'anciens chefs de gouvernement.
Toujours en Algérie, la campagne électorale pour la présidentielle prévue jeudi pour remplacer l'ex-président déchu Abdelaziz Bouteflika a pris fin hier dimanche après trois semaines marquées par un rejet massif du scrutin par la population. En lice, cinq hommes qui ont tous plus ou moins soutenu la présidence de Bouteflika. Dans un ultime discours, le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée et l'homme fort du régime depuis le départ de Bouteflika, s'est dit convaincu que le peuple algérien s'engagera dans cette échéance nationale cruciale à travers une participation massive dans les prochaines présidentielles en toute liberté et transparence.
Quatre mineurs ont été tués et un a été grièvement blessé après qu'une chute de pierre dans une mine d'or sud-africaine a piégé cinq travailleurs sous terre, a annoncé hier la société et un syndicat des mineurs. Le syndicat a vivement critiqué la société minière, affirmant qu'il n'y avait pas de voie de sortie dans la zone de travail où les quatre mineurs ont été retrouvés morts. La société Village Menruif a déclaré qu'elle ne commenterait les procédures d'évacuation qu'après la fin d'une enquête.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, après deux mois d'enquête à la Chambre des représentants, la commission judiciaire va commencer à rédiger cette semaine les chefs d'accusation visant le président Donald Trump. Eric Manirakiza.
La commission judiciaire commencera par entendre aujourd'hui des représentants des groupes républicains et démocrates qui présenteront chacun leur version aux antipodes des conclusions à tirer de l'enquête. Plusieurs chefs d'accusation pourraient être retenus. Abus de pouvoir et corruption, entrave à la bonne marche du Congrès et entrave à la justice. Cette audition sera bidon, a tweeté Donald Trump hier. Nous avons un dossier en béton, a déclaré Jerry Nadler de la commission, affirmant que si ce dossier était présenté à un jury, un verdict de culpabilité de M. Trump serait rendu en 3 minutes chrono. Donald Trump proclame son innocence et dénonce une enquête anticonstitutionnelle, une mascarade montée à charge contre lui et refuse de coopérer. Cette nouvelle étape accélère la procédure vers le vote en séance plénière à la Chambre, qui peut intervenir d'ici la fin de la semaine, a indiqué le président de la commission, Jerry Nadler. Compte tenu de la majorité démocrate, Donald Trump deviendra certainement le troisième président de l'histoire après Andrew Johnson et Bill Clinton, mis en accusation au Congrès américain. Mais il devrait ensuite être acquitté lors du procès politique qui sera organisé au Sénat, où les républicains sont majoritaires et le soutiennent largement.
Le programme d'entraînement des militaires saoudiens sur le sol américain est remis en cause aux États-Unis deux jours après qu'un Saoudien en formation a tué trois personnes et en a blessé huit sur une base aéronavale de Floride. Les élus républicains et démocrates s'accordent sur le fait que les échanges militaires entre Washington et Riyad doivent être examinés de près. Quatre roquettes se sont abattues lundi sur une base militaire jouxtant l'aéroport de Bagdad et abritant des soldats américains, faisant 6 blessés, a rapporté l'armée. C'est la dernière attaque d'une série qui semble s'intensifier.
Des sources de sécurité ont précisé que tous les blessés appartiennent aux unités d'élite du contre-terrorisme, l'unique force irakienne entraînée et armée menée par les États-Unis dans un pays où les factions armées pro-Iran n'ont cessé de gagner en influence et sont désormais intégrées aux forces de sécurité. L'armée assure avoir découvert les bases de lancement de ces roquettes ainsi que d'autres projectiles n'ayant pas explosé, laissant penser que l'attaque aurait pu être plus importante.
Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité mondiale et africaine ce matin. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques en Afrique. C'est l'heure de la Minute Éco avec Irénée Hermanoumbo.
En Afrique du Sud, l'entreprise publique d'électricité Eskom a annoncé des coupures de courant massives dans tout le pays, notamment à cause de fortes précipitations qui perturbent l'approvisionnement en charbon des centrales électriques. Le géant pétrolier saoudien Saudi Aramco va réaliser ses grands débuts à la bourse de Riyad le 11 décembre, a dévoilé la plateforme financière au lendemain de l'annonce par le groupe d'une levée record de 25,6 milliards de dollars, faisant d'Aramco la plus grosse introduction en bourse de l'histoire. L'indicateur global des prix alimentaires publié par l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation s'est élevé en moyenne à 177,2 points en novembre, soit 2,7% de plus qu'en octobre et 9,5% de plus qu'à la même période de l'année précédente, tiré par les viandes et les huiles végétales, alors que les céréales reculaient légèrement. Sur les 900 principales villes du monde, près de deux tiers, 586, vont connaître un ralentissement économique en 2020-2021 en raison essentiellement du commerce international, selon une étude d'Oxford Economics.
À présent, la page sportive avec Élisée Sonia. Bonjour Élisée.
Bonjour Nanita et bonjour à tous.
Élisée, nous commençons par le football, notamment la deuxième journée des Coupes africaines des clubs et deuxième victoire pour le TP Mazembe en Ligue des Champions.
Oui, les Corbeaux, habitués à ne pas gagner à l'Est sérieux depuis plus d'un an, sont allés battre les Zambiens de Sesco United 2-1 grâce à un doublé de Jackson Muleka. Le club de Lubumbashi est en tête dans ce groupe A devant le Zamalek du Caire qui s'est relancé en battant 2-0 les Angolais de Primeiro do Agosto. Dans le groupe B, deux matchs, deux victoires également pour l'étoile du Sahel suite à son succès 3-0 au Zimbabwe devant Platinum. Les Tunisiens, solide leader devant Al Ahly du Caire, vainqueur 2-1 des Soudanais d'Al Hilal.
À l'image de TP Mazembe et de l'étoile du Sahel, l'Espérance de Tunis enchaîne un deuxième succès en deux matchs dans le groupe D.
Le double tenant du titre a eu difficilement raison des Algériens de la GSK 1-0. Dans l'autre match du groupe, les Marocains de Raja de Casablanca ont remporté une victoire 1-0 à Kinshasa devant les Congolais de l'ASV Club. Et puis, dans la poule C, pas de vainqueur entre deux anciens lauréats de la compétition, le Wydad de Casablanca et le Mamelodi Sundowns, score 0-0. Pas de vainqueur non plus dans l'autre match du groupe entre le Petro Atlético et l'USM Alger, un but partout.
Deuxième journée également en Coupe CAF et deux clubs égyptiens partagent la tête du groupe A.
Il s'agit de Pyramid FC et d'Al Masry qui ont enchaîné leur deuxième succès de rang, respectivement face aux Mauritaniens de FC Nouadhibou et aux Nigériens d'Enugu Rangers. Dans le groupe D, belle performance d'Assane Agadi, vainqueur 2-0 en Algérie face à Paradou. Les Algériens, solide leader devant les Nigériens d'Enimba, victorieux 1-0 des Ivoiriens de FC San Pedro.
Apprentissage difficile pour les Béninois d'SAE dans la poule B.
Oui, les étudiants ont enregistré leur second revers en deux journées. Une deuxième défaite, cette fois à domicile face au Congolais de Daring Club Motiba Pembe, score 2-0. Une expérience difficile, reconnaît l'entraîneur des AE, Richard Bior.
Ce qui nous a manqué, un peu de maturité. Vous savez, nous jouions en phase de poule et on avait en face les habitués de la compétition.
Côté congolais, c'est une victoire qui relance le club. Isaac Nganta, l'entraîneur des Immaculés, fait la lecture du match.
Ils sont restés dans un jeu typiquement académique et c'est là que nous avons décidé de les faire venir et puis de les prendre sur des ballons longs à l'intermédiaire.
Le club de Kinshasa partage la première place de ce groupe avec Renaissance de Berkane accrochée par les Zambiens de Zanaco. Et puis dans la poule C, le Oroya de Conakry est notamment en tête après sa large victoire sur les Libyens d'Al Nass sur 7-3-0. Même nombre de points que les Maliens de Djoliba qui ont dominé les Sud-Africains de Bives, score plus serré 1-0.
Pour terminer, Élisée, football toujours avec le tournoi de l'UFOA des moins de 20 ans en Guinée et le Sénégal remporte le trophée.
Oui, les Lionceaux de la Teranga se sont imposés 2-0 contre le Mali à l'issue de la finale jouée au stade général Assana Conte de Nongo. Ils succèdent donc à la Gambie qui a fini troisième après sa victoire devant la Sierra Leone lors du match de classement. Du basketball pour finir, la NBA et avec vous Nanit, les résultats de la nuit.
Oui, Élisée, en NBA, Brooklyn, Denver 105-102, Atlanta, Charlotte 122-107, Chicago Bulls, Miami 105-110, Philadelphie, Toronto 110-104, les Clippers de Los Angeles et Washington 135-119, Sacramento et Dallas 110-106, Oklahoma, Portland 108-96 et enfin les Lakers et Minnesota 142-125. Vous êtes toujours à l'écoute du Monde d'aujourd'hui sur VOA Afrique. Avec vous de Washington, Nanit Talani. Maintenant, place à nos dossiers du jour. Réaction des personnalités politiques au sujet de la déclaration du président français Emmanuel Macron qui demande aux chefs d'État africains membres du G5 Sahel de clarifier leur position pour le maintien ou non des forces Barkhane déployées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La déclaration a été faite le 4 décembre dernier à l'issue d'un sommet de l'OTAN à Londres. De N'Djamena, André Kodmadingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point.
C'est pas en ce moment que le président français va désister afin que cette opération puisse continuer. Non, cette opération Barkhane, c'est une compétence pour tous.
Burkou Louise Garadoumbri est la présidente du parti Rassemblement pour le Progrès et la Justice Sociale, membre de la majorité présidentielle.
Les hommes politiques, même s'ils ne veulent pas de la présence des militaires français, ils dénoncent. Ils font le constat du comportement aussi des militaires français sur leur territoire. Parce que les pays africains comme mon pays, a beaucoup perdu, mais en retour, il n'y a rien.
Le président Macron invite le 16 décembre prochain les 5 chefs d'État africains concernés à Paris pour apporter des réponses précises sur cette question. Selon des sources proches de la direction de la communication de la présidence de la République, le président Déby n'a pas encore donné son accord pour sa participation à cette rencontre. Pour la syndicaliste et activiste Demba Karium, Emmanuel Macron fait du chantage aux dirigeants africains.
Aujourd'hui, si nous sommes dans une situation critique dans le Sahel, c'est tout simplement à cause de la France. Et aujourd'hui, il se plaint du fait que la France est le seul à intervenir dans cette localité. C'est tout simplement pour appeler les autres à lui donner plus de moyens. Mais non, la France doit plier bagage. Parce qu'elle continue de nous piller. Elle continue de nous asservir. Si on prend le Tchad, on prend le Burkina et le Mali, vous pensez qu'on ne peut pas constituer des bataillons en termes de milices?
Pour l'heure, la réalité, c'est que les forces des États du Sahel, mal formées et mal équipées, peinent à faire face aux assauts quotidiens des bandes djihadistes. Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, voit la situation autrement.
Moi, je voudrais parler aux peuples africains. Soyons capables d'avoir, non pas l'obsession d'une autre puissance, mais ayons l'obsession de nous engager nous-mêmes dans nos pays. Il y a des situations pour lesquelles nous pouvons et nous avons le devoir de nous engager. Ne cherchons pas à identifier des ennemis et des adversaires extérieurs. Mais moi, mon intime conviction, c'est que ce dont il est question, c'est d'avoir l'intelligence collective en changeant ce qui nécessite d'être changé. Donc, ceci doit nous amener à ne même pas attendre qu'on nous convoque pour aller essayer de dire ce que nous devons dire.
Aucun commentaire pour le moment au niveau du gouvernement du Tchad ni du côté du parti au pouvoir. Cependant, le président Déby a réitéré ce week-end à Rome, en Italie, au forum du dialogue méditerranéen, un appel à l'endroit des partenaires d'appuyer plutôt les efforts du pays du G5 Sahel que de les orienter dans ce qu'ils doivent faire en matière de sécurité. Nous connaissons mieux que quiconque nos réalités et nos besoins pour agir en conséquence contre les menaces qui pèsent sur notre espace, a-t-il dit. André Kodmadingar maintenant pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
110 combattants repentis ou ex-membres du groupe Boko Haram réintègrent leur communauté après 3 ans de déradicalisation. Ils se sont engagés le 8 décembre au Niger à ne plus renouer avec le terrorisme ni apposer des actes contraires aux lois du pays. Reportage de notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa.
Au nom des 109 autres ex-combattants de Boko Haram, Mustapha Mamadou, la trentaine, jure sur le Coran. Il demande pardon et s'engage à ne plus prendre part à des actes terroristes et à respecter les lois de la République. Les autres se tiennent les mains et répètent ensemble avec lui devant un parterre d'autorité, dont le ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum, dans l'enceinte hautement sécurisée du centre de réinsertion socio-économique pour repentis de Goudoumaria à quelques 200 km de Diffa.
Dans ce centre, les éléments ont subi le profilage par le service central de lutte contre le terrorisme de la police nationale. Et les dossiers qui en ont issu ont été examinés par la justice en vue de procéder au triage conformément aux dispositions légales de notre pays. À la suite de ce triage, un premier groupe de 35 mineurs non accompagnés ayant fait l'objet de déradicalisation a été remis au ministère de la Justice. Un second groupe de 125 éléments a été soumis à la formation professionnelle après la déradicalisation. Le résultat de ce long processus de déradicalisation et de réhabilitation est aujourd'hui devant nous, avec 110 personnes prêtes à reprendre leur place dans leur communauté respective pour mener une vie normale. De ce groupe, 47 personnes sont de nationalité nigériane. Les 15 autres éléments sont prêts à la réinsertion au mois de janvier de l'année 2020.
Des certificats de sortie et des kits pour démarrer des activités génératrices de revenus selon la formation suivie ont ensuite été remis aux jeunes, parmi lesquels 8 femmes. Ce lundi 9 décembre, en principe, ils doivent être acheminés dans leur village d'origine et pour les accepter par les familles et les communautés, les autorités régionales de Diffa ont fait un travail de sensibilisation en amont. Issa Lemine, gouverneur de la région de Diffa.
Il ne faudrait pas que ces jeunes-là souffrent de leur passé. Ce qu'ils ont fait, ils ont regretté, ils ont renoncé. Et ils nous ont montré pendant 3 ans qu'ils ont renoncé. Ils ont accepté de faire une formation professionnelle. Donc aujourd'hui, ce qui reste, c'est de les accueillir à bras ouverts, de les considérer comme tous les autres jeunes qui sont avec nous. Donc ils vont regagner leur famille, d'abord c'est une réinsertion en famille. Ils vont retourner dans leur famille et seront assistés. Et on va veiller parce qu'on va mettre un comité de suivi et d'encadrement. Donc je pense que ça va marcher et il n'y aura pas de stigmatisation. Et des dispositions seront prises à tous les niveaux. Dans ce cadre, on a déjà fait une réunion avec tous les responsables administratifs et coutumiers de la région et chacun s'appelle à cela.
Dans la guerre contre la secte Boko Haram, les autorités nigériennes ont opté en fin de l'année 2016 pour un processus volontaire de reddition des combattants à travers une série d'appels. Les premiers à répondre, une trentaine, ont été admis dans le centre de Goudoumaria. Ils sont aujourd'hui, selon les autorités, plus de 200 hommes et femmes pris en charge par l'État et ses partenaires. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Destination le Burkina Faso où se tient la 15e édition du festival Ciné Droit Libre depuis ce week-end. Le festival qui fait la promotion des films sur les droits humains et la liberté d'expression se penche cette année sur la question de la démocratie en Afrique. Le reportage de notre correspondant Lamine Traoré.
Ans que le festival existe au Burkina, Ciné Droit Libre est devenu la plateforme par excellence de diffusion des films aux thématiques sensibles, parfois d'ailleurs censurées. Le festival est né d'un constat et d'une histoire.
Nous avons co-réalisé un film sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo.
Abdoulaye Diallo est le coordonnateur du festival Ciné Droit Libre.
C'est parce qu'il y a eu ce film, mais pas seulement, parce que ce film a été censuré, qu'aujourd'hui nous sommes là. Parce que ce film a été censuré, que nous avons décidé de ne pas croiser les bras. Ah oui, j'oubliais que les pirates aussi ont refusé de pirater le film. C'est important à signaler. Et c'est comme ça que, voilà, on a pensé qu'il était bon de créer un cadre où tous les films qui parlent aux gens, qui posent les vrais problèmes, même s'ils sont sensibles, même s'ils dérangent, que ces films puissent passer.
Et pour cette 15e édition, les promoteurs du festival se penchent sur le thème de la démocratie en Afrique.
Moi qui suis devant vous, j'ai écrit un livre en 3 tomes. Tome 1, comment accéder au pouvoir? Tome 2, comment demeurer et mourir au pouvoir? Tome 3, comment transférer le pouvoir à son fils et bientôt à son petit-fils?
L'ancien président de la transition au Burkina était à l'ouverture du festival, Michel Kafando.
Dans les efforts de nos États pour mieux enraciner la démocratie, la dimension respect des droits humains en constitue la base. En quoi l'outil communication, et singulièrement le cinéma, peut-il jouer un rôle primordial en la matière? On le voit, l'ancrage et l'exercice de la démocratie, à notre terme de la liberté, soulèvent donc beaucoup de questionnements.
Et l'éminent enseignant, le professeur Théophile Obenga du Congo Brazza, a effectué le déplacement de Ouagadougou pour assister à Ciné Droit Libre.
Le festival Ciné Droit Libre, ayant survécu de multiples difficultés de toutes sortes, mais à la fin, c'est l'Afrique qui triomphe avec sa jeunesse.
En 15 éditions, le festival qui fait la promotion des droits de l'homme s'est implanté dans 5 pays en Afrique de l'Ouest, parcouru une centaine de villes et drainé des centaines de milliers de festivaliers selon les promoteurs. Le festival se poursuit toute cette semaine à Ouagadougou entre projections de films, prestations de musiciens et humoristes engagés et conférences sur la principale thématique cette année. Pourquoi la démocratie? Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Branché sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Cap sur le Cameroun, un chef traditionnel a été destitué de ses fonctions par le ministre de l'administration territoriale. D'après l'arrêté, il est reproché à Sa Majesté Paul-Marie Biloa Effa l'instigation et l'incitation à l'insurrection, l'insubordination et la participation à une manifestation interdite. Le chef traditionnel démis de ses fonctions est par ailleurs conseiller spécial de l'opposant Maurice Kanto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Cette destitution, comme on peut l'imaginer, est diversement appréciée dans le pays. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
C'est un acte supplémentaire d'ostracisme, de brimade de l'administration vis-à-vis du MRC et de ses militants.
Réaction sans embâge de Thierry Okala Ebodé, trésorier adjoint du MRC, au lendemain de la destitution de Sa Majesté Biloa Effa de ses fonctions de chef coutumier Mvogbeti à Messa Kwaba dans le deuxième arrondissement de Yaoundé. Thierry Okala, des mobiles politiques sous-tendent cette décision gouvernementale.
Monsieur Biloa Effa est victime d'une démarche de répression que subissent le MRC et ses militants. Est-ce que Sa Majesté Biloa Effa a été condamné par la justice pour participation à une manifestation illégale? Ce n'est pas le cas.
Le 1er juin dernier, le chef Biloa Effa avait pris part à Yaoundé à une marche interdite pour dire non au hold-up électoral. Interpellé, il a passé 47 jours de garde à vue avant d'être libéré. Une telle implication d'une autorité coutumière dans les activités politiques est contraire à la loi, soutient Patrice Ondondo, militant du RDPC, le parti au pouvoir.
En tant que chef, parce qu'on est auxiliaire de l'administration, on ne doit pas outrepasser un certain nombre de missions. Biloa Effa, en ayant épousé la logique insurrectionnelle, l'insubordination à l'administration, ça ne pouvait que finir par ce genre de destitution.
Les spécialistes du droit ne s'accordent pas sur la légalité de la décision du ministre de l'administration territoriale, Jean-Marie Nouga, est avocat.
L'acte qui désigne les chefs traditionnels est une homologation en fait d'un processus auquel le ministre ou bien le préfet est un tout petit peu étranger. Le chef de troisième degré est désigné par le préfet. Est-ce que c'est le ministre qui était compétent pour destituer un chef traditionnel?
Selon la loi du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles, en cas de faute dans l'exercice de ses fonctions, un chef traditionnel en cours des sanctions pouvant aboutir à sa destitution. Cet article fait entorse au droit coutumier d'après Mohamedou Talba, militant de l'UNDP.
Ceux qui ont, selon la tradition, désigné FHF, vont-ils accepter de désigner un autre chef parce que c'est le ministre qui leur a proposé? Ayant destitué un chef nommé normalement Matangandji, va-t-il le désigner par arrêté, son remplaçant?
Depuis sa désignation comme ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji est régulièrement accusé d'entretenir un climat tendu avec certains partis de l'opposition, ce que dément ce dernier.
Il n'y a pas de climat tendu. Nous encadrons l'activité des partis politiques.
C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la console d'Harold Smith, merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Nanit Talani à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.